Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine d'actualité internationale à retrouver du lundi au vendredi de 11h à midi. Une émission préparée par Bertille Bourdon, mais aussi Margot Léridon, Lucas Lazo et Nicolas Sendé, réalisée par Benjamin Hu et à la technique ce matin, Jacques Azubert. Nouvelle série consacrée au Royaume-Uni, son indépendance retrouvée, quel avenir, quel horizon pour les Britanniques après leur départ de l'Union Européenne, enfin acté ce 31 décembre. On en discute toute cette semaine. Demain mardi, nous reviendrons sur les fragilités de l'Union Britannique, notamment en Écosse et en Irlande du Nord. Mercredi, nous ferons le point sur les atouts et les faiblesses d'une économie qui se rêve déjà comme la nouvelle plaque tournante de la mondialisation. Enfin jeudi, nous verrons comment Londres tente de reconstruire sa grandeur passée sur le plan diplomatique. Mais d'abord, ce matin, place à la politique après la signature de l'accord. Boris Johnson, héros national, c'est la question que nous posons ce matin.
Ce soir, à la veille de Noël, j'ai un petit cadeau pour tous ceux qui pourraient chercher quelque chose à lire dans ce moment de sommeil post-repas de Noël. Et le voici. Des nouvelles réjouissantes, car il s'agit d'un accord. D'un accord visant à apporter des certitudes aux entreprises et aux voyageurs, ainsi qu'à tous les investisseurs dans notre pays à partir du 1er janvier. Un accord avec nos amis et partenaires de l'Union européenne.
As many are of that opinion will say content. Country not content.
Je suis contente qu'on ait trouvé un accord, c'est une bonne nouvelle. Mais j'aurais préféré ne pas avoir de Brexit du tout.
On reste parmi les 5 plus grandes puissances économiques au monde. Ce sera plus difficile parce qu'on devra refaire des accords avec la Chine et les États-Unis.
Bien sûr que le pays gagne en liberté. Par contre, ça risque d'être plus difficile pour nous. Mais je suis sûre qu'à l'avenir, ça peut être bon pour le Royaume-Uni et l'Europe.
C'est en jouant au Père Noël que Boris Johnson a annoncé aux Britanniques, jeudi 24 décembre, avoir enfin trouvé l'accord fixant définitivement le divorce entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Dans une vidéo où il apparaît plus enjoué que jamais, sapin de Noël en arrière-plan, le Premier ministre a agité triomphalement face caméra le résultat de sa négociation, les 1200 pages fraîchement imprimées constituant l'accord. Si la mise en scène pourrait ne pas améliorer sa réputation de comique en politique, l'accord arraché in extremis, c'est une indéniable victoire pour Boris Johnson. Ainsi, l'ancien maire de Londres tient sa promesse faite en 2019 lors de la campagne des législatives, celle de rendre le Brexit réalité. C'est désormais chose faite. Depuis ce 1er janvier 2021, les Britanniques sont à nouveau les seuls maîtres à bord. Mais le triomphe pourrait être de courte durée. Alors que son accord est déjà critiqué, notamment par les pêcheurs en Écosse, les Britanniques semblent surtout préoccupés par la situation sanitaire du pays. Mi-décembre, une variante plus contagieuse du Covid-19 était découverte sur l'île, poussant le gouvernement à reconfiner massivement. Avec 75 000 décès, le pays est le plus touché d'Europe et beaucoup mettent en cause une gestion désinvolte du gouvernement, notamment au début de l'épidémie. Alors 2021 sera-t-elle l'année où le gouvernement pourra améliorer sa gestion de la crise sanitaire, passer le cap du Brexit? Boris Johnson est-il en mesure de proposer un nouvel horizon politique à ses compatriotes? Quid de son propre avenir alors que le Parti conservateur a été durement éprouvé par les divisions? Eh bien, nous accueillons deux invités ce matin pour discuter de toutes ces questions et je les remercie d'être avec nous. Aurélien Antoine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de droit public à l'université Jean Monnet Lyon-Saint-Étienne. Vous êtes aussi directeur et fondateur de l'Observatoire du Brexit. Vous avez publié cette année, enfin en 2020, Le Brexit, une histoire anglaise. C'était aux éditions Dalloz. Et puis à vos côtés, mais aussi à distance, Catherine Marshall, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire et de civilisation britannique à la CY Cergy Paris Université et directrice du laboratoire Agora. Vous avez aussi un livre en préparation qui paraîtra au printemps chez Palgrave. Ce sera en anglais sur la politique britannique du XVIIIe siècle à nos jours. Alors cet accord sur le Brexit, il a été signé, mais non seulement il a été signé dans les délais prévus. Si le Brexit continue de diviser la société britannique, est-ce qu'on peut dire que c'est quand même une victoire politique pour Boris Johnson, la signature de cet accord le 24 décembre, Catherine Marshall?
Alors oui, moi je suis d'accord, je pense qu'en effet c'est une victoire politique, mais je pense que c'est surtout en fait un accord qui marque deux moments. On va dire le premier qui est la fin d'une période inédite qui avait été débutée avec le référendum de juin 2016 et qui a été marquée par une crise politique et institutionnelle d'une très grande violence au Royaume-Uni avec des débats parlementaires agités qu'on connaît. Et dès maintenant, c'est le début du reste des négociations à venir, en particulier sur les questions qui vont être liées au secteur financier, qui ne sont pas dans l'accord, ou la question des assurances ou des services, en particulier même aussi les échanges diplomatiques. Donc du coup, c'est une victoire, mais ce n'est qu'une étape de plus dans un processus de séparation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et il faut dire que, même si c'est une victoire, c'est un divorce à l'amiable entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, mais un divorce quand même dont les citoyens britanniques et européens sont les enfants, et un divorce cet accord commercial ne viendra jamais résoudre tous les problèmes et ne sera jamais aussi intéressant que le marché unique et l'assurance des échanges fluides entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.
Aurélien Antoine.
Oui, alors je suis parfaitement d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est un succès d'abord à court terme par rapport au contexte que l'on connaît lié à la pandémie. Il suffit de regarder les unes des médias britanniques pour se rendre compte que le succès de la veille de Noël a vite laissé la place aux difficultés liées à la pandémie. Et puis succès à confirmer puisque il reste quand même beaucoup d'aspects à traiter, ça vient d'être rappelé par ma collègue, et il est évident qu'il faudra plusieurs années pour savoir si la relation entre les deux partenaires sera complètement satisfaisante et permettra au Royaume-Uni de surmonter quand même les défis qui se présentent à lui.
Alors, avant que le succès de Boris Johnson soit balayé par la pandémie, je voudrais qu'on s'y arrête quand même un petit peu un instant et qu'on essaie d'en comprendre les enjeux politiques. Ce qui a été assez frappant fin décembre, c'est que, contrairement à Theresa May, Boris Johnson est parvenu à faire approuver l'accord par le Parlement britannique et en plus à une majorité plutôt confortable, hein, 521 voix contre 73. Est-ce qu'il faut y voir le signe d'un consensus national sur le besoin enfin d'acter ce Brexit, ou est-ce que c'était un passage en force, parce qu'ils ont quand même eu à peine deux jours pour étudier l'accord. Qu'est-ce que vous en pensez, Catherine Marshall?
Ah oui, moi je pense que c'est une approbation qui a été complètement expédiée. Qui peut en fait en quelques heures étudier les quelques 1200 pages qui ont été signées? Bon, alors oui, en effet, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein, 521 députés pour, 73 contre. Vous avez simplement deux conservateurs qui ne sont pas opposés, qui sont juste abstenus, hein, mais qui étaient des vétérans anti-européens. Donc oui, on peut dire qu'en effet il y a une forme de victoire, mais et qu'il y a eu 10 mois de négociations intenses. Qui ont été menés dans des circonstances vraiment extrêmement compliquées. On sait que la négociation a commencé en mars, que Boris Johnson a été hospitalisé au mois de début avril, qu'il a eu un enfant fin avril, que toute l'année a été menée par un premier confinement, un second confinement, maintenant la nouvelle variante du virus. En effet, en ça, il y a une victoire. Mais il y avait aussi une grande fatigue, et il faut aussi se dire que Boris Johnson a fait des concessions. Il a fait des concessions nombreuses, en particulier sur les conditions d'accès des pêcheurs européens aux eaux britanniques. Mais pour moi, presque plus important sur le rôle de l'Irlande. Donc oui, il a obtenu cet accord, mais c'est un accord. Enfin, en écoutant mon collègue parler il y a un instant, je me disais que c'est une victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire que le Brexit a jeté un coup de projecteur sur des problèmes du Royaume, qui sont des problèmes internes, qui remontent à l'histoire du Royaume et à la domination de l'Angleterre sur le reste des nations. Et on le voit en fait, cet accord, il est imposé à l'Irlande du Nord et à l'Écosse, qui avaient voté en faveur de rester dans l'Union européenne. Donc en fait, si les gens se sont mis d'accord, si les parlementaires se sont mis d'accord à ce moment-là, c'est pour régler un problème qu'il fallait régler. D'ailleurs, c'est pour ça que même le rôle de l'opposition, Keir Starmer, qui lui a toujours été pro-européen, a fini par accepter qu'il fallait le voter, pour passer à autre chose. Mais là, maintenant, vont vraiment s'ouvrir de très gros problèmes. Pas simplement ceux de la pandémie, mais le Brexit et la pandémie révèlent des problèmes constitutionnels très importants.
Alors venons-en aussi aux critiques qui ont déjà été formulées par certains sur cet accord, qui évidemment n'est pas parfait. Et la principale, eh bien, elle vient d'Écosse et des pêcheurs écossais qui se sentent lésés, qui se sentent même sacrifiés par cet accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, Aurélien Antoine?
Parmi les seuls Écossais qui ont voté en faveur du Brexit, il y avait effectivement les pêcheurs écossais qui souhaitaient avoir l'accès exclusif, avoir une espèce de monopole à la zone économique exclusive britannique pour retrouver une forme de souveraineté de pêche, en quelque sorte, sur leurs eaux territoriales. Et l'accord, alors déjà dans les négociations, c'était un point très politique, plus qu'économique, ça a été rappelé souvent, hein, la part de la pêche dans le PIB aussi bien européen que britannique est quand même très faible, mais c'était un symbole politique pour certains pays. On sait les motifs propres à la France, il y avait justement ces motifs propres au Royaume-Uni, et il y avait peut-être un moyen pour Boris Johnson sur la pêche de diviser les Écossais sur la question du Brexit, en faisant peut-être une victoire. Et je crois que c'est peut-être pour ça aussi que ça a chopé longtemps sur cette question-là, parce que Boris Johnson, revenant avec une maîtrise totale des zones de pêche, eh ben c'était peut-être un attrait politique pour lui non négligeable. Il n'y est pas parvenu, parce que tout simplement, c'est un traité, c'est un contrat, hein, au niveau international. Donc il faut quand même des concessions réciproques, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Et qui disait monopole d'accès à ces zones de pêche, eh ben, conduisait forcément à avoir un accès très restreint pour ces pêcheurs au marché européen. Il faut savoir que les Britanniques ne consomment pas toutes les ressources halieutiques que leurs pêcheurs prélèvent dans leurs eaux territoriales et qu'il faut bien trouver des débouchés. Ces débouchés sont très largement dans l'Union européenne, donc il fallait bien trouver un terrain d'entente. Mais c'est vrai que ce qui a été prévu sur une période de 5 années et demie avec la possibilité de ne maîtriser que finalement 25% de la zone de pêche, c'est bien en deçà du fait d'une pleine souveraineté, de retrouver une pleine souveraineté sur ces eaux territoriales.
Mais ce qui est un peu étonnant, c'est que le Premier ministre Boris Johnson est revenu de ces négociations en disant « j'ai obtenu gain de cause ». Il a parlé dans la vidéo que nous avons diffusée en début d'émission d'un accord « full of fish », plein de poissons. Et les pêcheurs écossais, eux, ne le voient pas du tout de cette manière-là. Donc il y a quand même quelque chose d'un petit peu étonnant à présenter une victoire sur un point où, en réalité, il y a eu des concessions qui ont été faites. Catherine Marshall, comment est-ce que vous voyez un peu cette utilisation politique de l'accord trouvé ?
D'autant que la pêche représente 0,1% de l'économie du pays. Donc vraiment, comme mon collègue vient de le dire, c'était vraiment un sujet politique, c'est un sujet symbolique. Donc moi, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Je pense que chez Boris Johnson, il y a cette capacité, avec ses phrases improbables, un peu son apparence brouillonne, ses cheveux ébouriffés, un peu à mettre en scène quelque chose qui finalement est peut-être pas aussi fantastique qu'il voudrait le faire penser. Maintenant, est-ce qu'on peut vraiment le lui reprocher un jour de 24 décembre, à la fin d'une année particulièrement difficile, de vouloir en faire quelque chose de plus important que prévu? Je pense que la situation du pays, comme l'a évoqué mon collègue tout à l'heure, avec la pandémie, fait que c'était une bonne nouvelle le 24 au soir, assortie quelques jours après, le mercredi 30 décembre, du fait que le vaccin AstraZeneca à Oxford avait été approuvé par le régulateur britannique. C'était les deux bonnes nouvelles de la fin de l'année. Mais là, on le voit bien, on se réveille un 3 et un 4 janvier avec une situation vraiment extrêmement compliquée pour le Royaume-Uni à venir. Donc, on peut pas vraiment lui reprocher. Et c'est dans l'esprit de Boris Johnson, ce que les gens attendent de lui. C'est pas simplement un drapeau, c'est 5 drapeaux britanniques, c'est le sapin de Noël, c'est des phrases, en fait, vraiment un petit peu improbable. Bon, c'est lui. Voilà, c'est le personnage aussi, c'est le personnage de Boris Johnson. Par contre, je pense que l'année qui vient va être brutale.
Oui, parce que ce personnage-là et cette identité politique qu'il s'est construite, ce récit aussi, ce personnage, est-ce que ça va être suffisant pour, une fois le cap du Brexit passé, pour fixer un horizon, un vrai cap pour toute la nation britannique sur les années à venir? Parce que les prochaines élections, c'est 2024, donc là, il y a quand même de longues années qui se présentent. Comment est-ce que vous voyez la marge de manœuvre de Boris Johnson pour se renouveler, Aurélien Antoine?
D'abord, on va voir si ce que j'ai qualifié de néo-réactionnaire, une tendance néo-réactionnaire chez Boris Johnson va se confirmer dans les faits, pondéré par cette espèce de pragmatisme qu'il montre, et le cas de la pêche l'illustre bien, hein, c'est-à-dire de son projet de Global Britain, va falloir voir dans quelle mesure il va pouvoir le mener. On sait qu'il a conclu un certain nombre d'accords, principalement axés d'ailleurs sur évidemment les États membres du Commonwealth et la zone Asie-Pacifique, hein, plus que les États-Unis. Donc là, ça va être intéressant à scruter. Et puis vous avez dit, il y a 5 ans, alors bon, il peut y avoir une dissolution avant le terme, il y a 5 ans, il faudra faire un bilan de cette relation avec l'Union européenne. Je tiens à préciser quand même qu'effectivement, il a mis un peu en scène tout cela, mais il faut savoir quand même que l'accord, le diable est dans les détails, prévoit effectivement une période quand même relativement tranquille pour les pêcheurs européens pendant 5 ans et demi, mais il faut quand même pas oublier qu'après, il y aura des négociations annuelles. Donc, les choses pourront évoluer et on risque d'être en négociation permanente, un petit peu comme entre l'Union européenne et la Suisse. Donc, son projet pour Boris Johnson au niveau international, à mon avis, reste à confirmer par rapport au cap qu'il avait lancé dans ce discours de Greenwich de début février, qui est très intéressant à étudier sur le front interne. Et là, je partage ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que le défi, c'est l'Écosse et l'Irlande du Nord. Je pense que on parle, à mon avis d'ailleurs, d'un point de vue institutionnel, un petit peu trop de l'Écosse par rapport à la situation de l'Irlande du Nord, qui me paraît, d'un point de vue constitutionnel et purement de droit constitutionnel, pourrait évoluer à très long terme vers une réunification de l'île. Ça a été déjà évoqué, mais un mode mineur par rapport à l'Écosse. Et l'Écosse peut-être occupe peut-être un peu trop le haut du pavé de mon point de vue, de ce point de vue-là.
Alors c'est une question qu'on va avoir le temps de creuser et de rentrer dans les détails demain avec Florian Delorme. On va parler justement des failles de l'union du Royaume-Uni. Catherine Marshall, vous disiez tout à l'heure, on a vécu une période d'une grande violence politique au Royaume-Uni depuis le référendum, depuis la campagne du référendum pour le Brexit. Si on s'arrête un instant sur le Parti conservateur en particulier. Où en est le parti aujourd'hui, sachant qu'il a été quand même vraiment durement éprouvé par les divisions? Il y a eu en 2019 l'exclusion de 20 députés qui n'étaient pas d'accord avec Boris Johnson. Est-ce que la victoire de la signature de l'accord du Brexit fin décembre constitue selon vous une base solide sur laquelle le parti conservateur va pouvoir se reconstruire?
C'est exactement la question, c'est-à-dire que pour moi le problème à venir, c'est le Parti conservateur, c'est-à-dire que là finalement il y a eu une forme d'union qui s'est faite autour de la question du Brexit, d'en finir avec le Brexit. Mais finalement Boris Johnson doit réussir à trouver une issue à la tension qui existe au sein du Parti conservateur entre d'un côté des conservateurs modérés cosmopolites, libéraux et ouverts qu'on appelle les cosmopolitan liberals. De l'autre côté, des conservateurs provinciaux pour qui la question de la souveraineté parlementaire avait beaucoup compté et qui aussi sont vraiment en faveur de voir imposer l'ordre et le droit. Et vous avez ensuite les anciens travaillistes du Nord qui ont voté pour les conservateurs en décembre 2019 et qui étaient contre l'Union européenne pour des raisons diverses, l'immigration en particulier. Et donc du coup, c'est là que les choses coincent, parce que entre les conservateurs modérés, les conservateurs provinciaux et les anciens travaillistes du Nord qui ont voté conservateurs en décembre 2019, il va falloir trouver une solution pour plaire à tous. Et ce n'est pas possible de plaire à ces trois points. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez des populistes de droite dont on imagine très bien que Nigel Farage, qui était l'ancien chef du Brexit Party, maintenant du Reform UK, donc qui est par exemple contre le confinement en fait en ce moment. Mais on imagine bien que quelqu'un comme lui pourrait être la nouvelle figure de proue qui vont s'opposer par exemple au changement en faveur du climat, puisque là c'est le grand cheval de bataille de Boris Johnson. Alors que la droite cosmopolite libérale, elle va adhérer à ces idées. Et de même, ceux qui accueillent favorablement la globalisation et l'immigration dans les grandes villes ont bien du mal à comprendre les circonscriptions du nord de l'Angleterre qui étaient pro-Brexit et qui s'opposent à tout ce qui relève de la globalisation et qui veulent des quotas sur l'immigration et qui vont être les premiers touchés par l'accord avec l'Union européenne. Donc du coup, ce qu'on a là, c'est une situation dans laquelle on a un parti conservateur qui est assez peu uni finalement, en dehors de la cause commune qui était le Brexit. On a une chaussée très fracturée et un royaume désuni. Et je voudrais juste rajouter un point important, c'est que au moment du discours du 31 décembre 2020, donc il y a quelques jours, au moment du discours du premier de l'an, le Premier ministre a vraiment fait état de ce qu'il voulait être cette révolution verte, en fait, hein, ce désir. Il parle d'avoir il a la foi en la science, il espère en fait la création d'emplois verts, mais on voit bien que quand il parle d'une société, il parle d'une société ouverte, généreuse, qui regarde à l'extérieur, internationale, adepte du libre-échange. Cette société-là dont il parle, ce n'est pas celle des circonscriptions électorales du nord de l'Angleterre, à moins de vouloir opérer des changements à coup de baguette magique. Et c'est là qu'il va y avoir une des grandes difficultés.
Aurélien Antoine, il n'y a plus aujourd'hui, passé le Brexit, de base idéologique commune au Parti conservateur.
Je pense qu'en même par rapport au Brexit, on l'a vu à la période de Theresa May, ça, l'unité a été quand même très brève. Faut quand même aussi marquer, alors moi je le salue dans mes publications, le fonctionnement du parlementarisme. La Chambre des communes est loin d'être un parlement gaudiot. Ils ont quand même largement contribué à avoir la peau d'un individu comme Dominic Cummings, qui lui a une vraie idéologie et semblait fixer un cap, évidemment, de mon point de vue très contestable, mais qui était à peu près clair.
Alors précisons ça, parce que c'est peut-être pas quelque chose de très très connu. Qui est Dominic Cummings, ce conseiller auquel vous venez de faire allusion?
Alors Dominic Cummings, ancien conseiller éminence grise de Boris Johnson, est une espèce de membre de cabinet, je dirais pas noir, mais de cabinet proche du Parti conservateur, qui a fait quelques séjours en Russie, qui a été celui qui a élaboré la stratégie de la sortie du Royaume-Uni avec les arguments du référendum, parfois totalement erroné, hein, mais bon, c'est le jeu politique aussi, qui est à l'origine aussi de certaines manœuvres, entre guillemets, pour couper la parole au Parlement avec la prorogation, vous vous souvenez de cet épisode paroxystique de crise l'année dernière, donc de cette prorogation du Parlement a été inspirée par lui. La loi sur la sécurité, le projet de loi sur la sécurité intérieure en septembre 2020, qui viole directement le traité de sortie, a été fortement influencé par lui, et son objectif c'était effectivement une rupture franche et nette avec l'Union européenne, avec une politique de libre-échange très importante, des liens très spécifiques. Il a d'ailleurs des commissions, la Chambre des communes l'ont rappelé, avec la Russie qui pose problème, beaucoup de manipulation, beaucoup d'intelligence, beaucoup de stratégie, mais finalement quelqu'un qui est, de mon point de vue, assez dangereux, qui a peu de respect pour le droit, pour les institutions. Il y a une dimension très machiavélique de sa part, hein, au sens premier du terme. Et finalement, sa violation du confinement au printemps, qui ont conduit à des fortes réactions populaires, mais aussi institutionnelles, ce projet de loi que j'évoquais au mois de septembre, on finit par
le faire partir.
Voilà,
parce qu'il a quitté son poste fin novembre, mi-novembre.
Il a quitté son poste le 13 novembre, et c'est très intéressant de regarder dans les discours de Boris Johnson et du gouvernement, de voir qu'à partir de ce moment-là, le langage qui consistait à dire, j'allais dire, les éléments de langage qui consistaient à dire le no deal est aussi bien qu'un accord, même un mauvais accord, et même mieux qu'un mauvais accord, eh bien, commençait à ne plus être réellement diffusé. Donc, il y a eu une influence majeure de cet individu et de ses proches, hein, comme Ian Cairn aussi, qui était conseiller de communication du 10 Downing Street.
Aurélien Antoine, compte tenu de ce que vous venez de nous expliquer, de l'influence de ce conseiller, Dominic Cummings, sur Boris Johnson et sur les conservateurs, est-ce que son départ signe un recentrage politique des conservateurs vers une politique peut-être plus traditionnelle du parti et la fin de ce qu'on a appelé le moment populiste de Boris Johnson, en tout cas, je dis le moment populiste, mais la teinte populiste qui a été accolée à son style politique? Est-ce qu'il y a un tournant majeur là qui vient de se jouer avec le départ de ce conseiller?
Pour moi, au niveau des négociations et de ce que je connais, parce que je ne suis pas un spécialiste de l'histoire du Parti conservateur comme ma collègue, elle vous répondra sans doute mieux que moi sur ce point, mais en tout cas par rapport aux négociations avec l'Union européenne, il y a à mon avis une évolution. Il a été remplacé, Dominic Cummings, par quelqu'un de très pro-business. Alors ça n'a pas permis de régler la question des services et de la City, mais néanmoins, moi j'y vois quand même une influence et un shift, comme on dirait, assez important, en tout cas dans le cadre des négociations du Brexit. Après, je pense que les divisions qui ont été très bien exposées au sein du Parti conservateur, l'unité passagère ne tenait pas à Dominic Cummings, dont le compte a été réglé quand même en partie par les backbenchers du Parti conservateur, c'est-à-dire les députés qui n'ont pas de portefeuille ministériel à la Chambre des communes. Il faut quand même le noter, c'est important, parce que quand Boris Johnson a remporté les élections en décembre 2019, tout le monde parlait de MPs qui allaient être à sa botte. Il s'avère qu'au Royaume-Uni, ça ne fonctionne pas vraiment comme en France, et que très rapidement, certains députés conservateurs n'ont pas apprécié le rôle trop important et qui conduisait à écarter le Parlement joué par Dominic Cummings.
Catherine Marchal.
Ah oui, oui. En fait, en effet, son départ, en fait, en novembre, il faut rappeler que c'était aussi quelqu'un qui était dans la culture de l'intimidation, qui avait vraiment pour ambition de réformer le civil service, donc la fonction, tout ce qui ressemblait à la fonction publique. Et alors, on pourrait peut-être rajouter à ce qui a été dit que la fiancée de Boris Johnson, qui était ex-directrice de la communication du Parti conservateur, Carol Simmons, a eu visiblement un rôle à jouer dans son départ aussi, hein, puisqu'elle s'est opposée à la promotion du directeur de la communication qui était Lee Kane, qu'on vient de l'évoquer. Qui était un proche allié de Dominic Cummings, et elle s'était opposée à la promotion de cet homme-là au poste de secrétaire général du premier ministre. Et donc en fait, il y a eu une forme d'infléchissement. Et Carol Simmons a été aidée par Allegra Stratton, qui est une ex-journaliste et qui est la future porte-parole du gouvernement de Boris Johnson. Et donc on a senti en fait que il y a eu un désir de récupérer un peu la popularité perdue de Boris Johnson, qui toute l'année a été très fortement critiquée pour la gestion, mais catastrophique, chaotique de la crise sanitaire. Et au profit de, par exemple, de quelqu'un comme Nicola Sturgeon, premier ministre d'Écosse, hein, et chef du Parti national écossais, qui, elle, en fait, en ressort avec vraiment est perçue comme étant vraiment beaucoup plus à même d'anticiper des décisions à prendre. Et donc, du coup, en fait, ce qui a été voulu par Allegra Stratton, la future porte-parole du gouvernement, par Carol Simmons et ceux qui entouraient Boris Johnson, c'était que Boris Johnson récupère la popularité qu'il avait eue. Et réellement, Dominic Cummings était devenu, on vient de le dire, une force un peu ombrageuse à ses côtés. Voilà. Mais bon, il a été le maître à penser de la campagne du Brexit, et il a été aussi celui qui a permis à Boris Johnson l'année dernière, au moment des élections législatives de décembre 2019, d'en sortir avec une majorité de plus de 80 parlementaires, ce qui est proprement, là c'était vraiment une vraie victoire. Ça c'était du jamais vu depuis les années Thatcher. Et c'est une victoire très confortable parce que, on vient de le dire, il n'a pas besoin d'avoir d'élection avant 2024, bon, sauf s'il choisit de le faire. Hein, mais réellement, il est dans une situation dans laquelle il peut traverser cette crise et il a le temps de voir et de faire changer les choses pour récupérer sa popularité.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Nous voulions tous avoir quelques jours de congé à Noël, mais à la place, on nous a demandé de revenir au travail. Cette fois, c'est une vague. Cette fois, c'est une augmentation massive. Si nous continuons avec le taux actuel d'admission, nous sommes vraiment très proches d'être débordés. Les gens commencent à être épuisés. C'est une si longue année. Les patients qui viennent à l'hôpital maintenant sont un peu plus malades. Beaucoup d'entre eux sont désespérément malades. Et nous en avons vu le véritable reflet dans le nombre de patients décédés. Quand je vois ces infirmières très expérimentées, quand je les vois pleurer, c'est quand je n'ai pas vraiment de réponse. Elles disent « Oui, mais quand ça va finir? Quand reviendrons-nous à un certain degré de normalité ?»
Un témoignage de personnel soignant en Grande-Bretagne recueilli fin octobre et fin décembre dans les hôpitaux. Le Covid, je rappelle, a fait au Royaume-Uni environ 75 000 décès depuis le début de la pandémie. Et il faut rappeler peut-être à ce stade que le Royaume-Uni, bien que pays très libéral, dispose d'un système de santé public financé par les impôts, le NHS, qui propose donc des soins gratuits accessibles à tous. Comment est-ce que le NHS a encaissé le choc du Covid-19, Aurélie Antoine?
Écoutez, pas très bien. Je crois que on met beaucoup en cause la gestion de Boris Johnson, qui effectivement a été erratique, mais je pense que nous sommes aussi pas toujours très bien placés pour critiquer les autres. Je pense qu'on a affaire, on fera le bilan dans quelques années, les sociologues, les historiens, les politistes, voire les juristes se penchant sur cette question, mais on paye quand même des décennies de politique néolibérale de gestion du NHS. Alors évidemment, c'est une crise, c'est une pandémie tout à fait inédite, c'est d'abord le virus, hein, soyons clairs, hein. Mais il est évident que les capacités d'absorption du NHS ont été fortement réduite par des politiques de retrait massif d'investissement dans le service public de la santé, mais on connaît ça aussi ailleurs, et je crois que c'est un peu généralisé pour l'ensemble des États occidentaux. Et je crois qu'il faut quand même, avant de critiquer la politique de Boris Johnson, à juste titre, erratique, il faut rappeler quand même ce préalable, ce postulat qui est tout à fait essentiel. Et je pense que...
Vous voulez dire que les Britanniques partaient avec un handicap dès le départ, c'est ça que vous voulez dire ?
De mon point de vue, quand je regarde les chiffres, parce que c'est pas les statistiques, les analyses qui sont faites des collègues britanniques sur l'évolution du système de santé, je vois, oui, je pense que ça partait très mal, c'était très inquiétant. Et il faut ajouter à cela que Boris Johnson, dans son budget du mois de mars, de début mars de cette année, et le premier dirigeant conservateur, alors Theresa May avait lancé un peu le mouvement, mais très, très succinctement, a renforcé considérablement un certain nombre de services publics, ce qui peut paraître paradoxal, et ça demande à être confirmé, c'est sans doute pas suffisant, mais ça montre à quel point l'urgence est là, du point de vue du NHS.
Et d'ailleurs, même avant la pandémie, Catherine Marshall, une des promesses de la campagne pour le Brexit en 2016, c'était d'injecter l'argent qui ne sera plus versé au budget de l'Union européenne au système de santé britannique. Est-ce que cette promesse-là, elle va être tenue ?
Ah, vous avez une bonne question. Je pense qu'en effet, la crise financière qui est liée à la pandémie, finalement, rebat les cartes. C'est-à-dire qu'il va y avoir une situation de vraiment extrêmement compliquée à gérer. Alors, Rishi Sunak, qui est le chancelier de l'échiquier, voilà, est en train de gérer une économie britannique qui est vraiment en plein choc. Il a donc dépensé des sommes énormes pour maintenir l'économie à flot. Il a mis en place un dispositif de chômage partiel. Il a repoussé le paiement d'impôts pour les entreprises. Mais le pays est en récession, d'ailleurs comme une grande partie des pays européens. Et l'OCDE prévoit que l'économie britannique restera en recul de 6% à la fin de l'année 2021 par rapport à son niveau d'avant la crise. Pour vous donner une idée, seule l'Argentine ferait pire parmi les principales économies mondiales. Alors le problème finalement, c'est qu'on ne sait pas vraiment si l'argent sera réinjecté dans le... Je ne sais pas s'il y aura d'argent à réinjecter, puisque Rishi Sunak n'a pas présenté un budget cet automne en raison de la situation. Il repousse les décisions difficiles. Mais il a promis au moment de la conférence des conservateurs de l'automne que le gouvernement conservateur équilibrerait les comptes. Alors moi, ce que cela sous-entend, c'est deux possibilités, soit une possibilité de hausse d'impôts, soit une baisse des dépenses publiques. Donc je ne sais pas très bien comment les choses vont pouvoir être faites. Mais vous avez raison de le souligner. On voit bien que par exemple, des hôpitaux qui ont été créés très rapidement, donc les hôpitaux Nightingale, comme on les appelle, en particulier celui de Londres, mais il y en a aussi à Manchester et etc. Celui de Londres, par exemple, ne peut pas ouvrir parce qu'il n'y a pas de suffisamment de personnel hospitalier pour le faire fonctionner. Donc en fait, on voit la crise. Mais finalement, comme vient de le dire mon collègue, est-ce que les hommes politiques peuvent faire autrement face à ce que nous sommes en train de vivre ? Et par ailleurs, je voudrais juste rajouter quelque chose de vraiment très important. La France, je crois, n'a pas conscience de ce qu'est en train de vivre le Royaume-Uni aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, ce matin, Nicola Sturgeon, en Écosse, demande un rappel du Parlement écossais pour proposer des nouvelles décisions. Hier, à la télévision, à l'émission de Andrew Marr, Boris Johnson a dit qu'il était réconcilié avec l'idée d'adopter des mesures encore plus contraignantes pour lutter contre le nouveau variant, alors que c'est totalement contre sa nature et sa façon de faire. Et on le voit, pratiquement la quasi-totalité du Royaume va passer en zone d'alerte 4, qui est donc le zone d'alerte 4 signifie que le message principal, c'est rester chez vous. Donc en fait, à moins de passer à une zone d'alerte 5, qui serait en gros on ferme les écoles, et donc qui est un confinement total, ils sont dans une situation qui est la même chose que ce qui s'est passé en mars dernier.
Est-ce que ça veut dire, Catherine Marshall, que la pandémie est en train de complètement rebattre les cartes des clivages politiques traditionnels, avec des libéraux qui se mettent à faire de la dépense publique, par exemple, d'autres libéraux qui acceptent des mesures privatives de liberté? C'est ça que vous voulez dire dans le fait de prendre la mesure de ce qui est en train de se passer au Royaume-Uni?
Oui, c'est-à-dire aussi, par exemple, on le voit dans le discours du Premier ministre de son message du 31 décembre, il commence en disant c'est une année dans laquelle le gouvernement a été obligé de dire aux personnes comment vivre, combien de temps il fallait qu'ils se lavent les mains, combien en fait ils pouvaient rencontrer de personnes de leur famille à Noël. Et ça, c'est quelque chose qui, pour Boris Johnson, est vraiment contre totalement sa façon de voir les choses. C'est comme quelqu'un qui, à la base, plutôt un libéral. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été tellement contre le confinement et qu'il s'est réconcilié avec cette idée que très tardivement. Et c'est pour ça que finalement, on a toujours le sentiment qu'il réagit plutôt qu'au lieu d'agir. C'est un peu la différence entre lui et Nicola Sturgeon en Écosse, où elle prend les devants, elle tente de trouver des solutions, mais lui, il est contraint par une situation qui le force à aller contre sa nature. Et là, hier matin, on le voyait bien quand il dit qu'il est reconciled, donc qu'il est réconcilié avec l'idée d'aller utiliser des méthodes encore plus contraignantes. C'est plus que surprenant, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va à l'encontre de sa nature. Alors l'autre point important, c'est qu'on verra au moment des élections locales de 2021, donc qui ont été repoussées à cause de la pandémie, donc il y aura de grandes élections en particulier, bon, il y aura la mairie de Londres, mais il y aura des élections locales partout dans le pays, on verra combien en fait sa façon de gérer la pandémie lui coûtera ou pas.
Et Catherine Marchal, il y a quand même aussi des bonnes nouvelles sur le front de la pandémie et il faudrait voir comment ça pourra bénéficier politiquement à Boris Johnson. Je veux parler bien sûr de la campagne de vaccination qui a commencé la première au Royaume-Uni et en plus depuis ce matin, on vaccine avec le vaccin de l'université d'Oxford et du laboratoire AstraZeneca produit au Royaume-Uni. Est-ce que vous pensez que Boris Johnson pourra là aussi tirer des bénéfices politiques de cette avance ?
Alors, là, très clairement, on l'avait vu d'ailleurs, il l'avait utilisé le mercredi 30 décembre, au moment où le régulateur britannique a approuvé le vaccin. Donc, il faut le rappeler, c'est un vaccin qui est peu coûteux, de 2,50 € environ la dose, facile à stocker, contrairement au vaccin Pfizer, BioNTech, qui est efficace. Alors, on ne sait pas encore s'il est totalement efficace contre la nouvelle variante du virus. Ça, c'est l'un des points. Mais oui, en effet, c'est vraiment la preuve d'une grande capacité au niveau de la recherche britannique d'avancer. On voit par exemple, si on compare avec la France, qu'à ce jour, les Britanniques ont déjà vacciné plus d'1 million de personnes. Bon, je vous donne pas les chiffres par rapport à la France, parce que c'est vraiment ridicule. Je crois que c'est à peine une centaine de milliers. Voilà, mais voilà, bon. Voilà, et du coup, donc oui, là, il y a une vraie recherche de qualité, mais on le sait, afin de faire en sorte de sortir de cette crise, il va y avoir quand même des mois extrêmement difficiles. Ce matin, j'écoutais la radio britannique, et il rappelait que les choses seraient pas réglées avant l'été. Donc vous imaginez si pour les Britanniques qui ont l'antivirus, les choses sont pas réglées avant l'été, ce que ça peut vouloir dire pour la France, par exemple. Donc moi, je pense que Boris Johnson l'a rappelé hier dans l'interview de Andrew Marr, il a dit que, en effet, les 3 mois à venir seraient extrêmement compliqués. Et je pense que cette nouvelle variante du virus est extrêmement dangereuse, c'est-à-dire qu'elle est contagieuse à entre 50 à 60% de plus, c'est-à-dire que c'est pas forcément qu'elle fait plus de morts, c'est qu'elle touche plus de personnes, qui vont toucher plus de personnes et qui donc vont saturer les hôpitaux britanniques. Mais là, la situation est vraiment sans précédent. Les hôpitaux de Londres, de l'Est de l'Angleterre, du Sud-Est sont pratiquement au maximum de leur capacité.
Et vous pensez, Aurélie Antoine, que le gouvernement va tirer les leçons de la première vague où il a quand même été accusé d'une attitude nonchalante par la presse qui a souligné l'absentéisme de Boris Johnson aux réunions de crise, etc., avant d'être lui-même contaminé. Est-ce que là, avec cette non seulement deuxième vague, mais cette variante plus contagieuse, est-ce que vous pensez que politiquement, le gouvernement va tirer les leçons des défaillances du début?
Écoutez, je pense qu'il l'a déjà quand même fait en partie sur le vaccin. J'adhère complètement à ce que ma collègue vient de dire. Je pense qu'il faut quand même se remettre dans le contexte. Les Français sont de très bons donneurs de leçons, disons-le clairement. Nous faisons des satisfecit, nous avons des déclarations présidentielles où il n'y a jamais de remise en cause. Si on reprend les discours de Boris Johnson, c'est un peu plus complexe que cela. Il faut quand même avoir conscience que c'est un pays qui a donc subi, comme tous depuis 2008, une crise financière, puis quand même de la dette avec une inflation qui est revenue, qu'ensuite il y a cette qui a connu le terrorisme, qui connaît le Brexit, qui a maintenant cela et qui essaye de faire front. Nous sommes dans une situation de crise qui impose le pragmatisme. Alors je veux pas faire de parallèle parce que je considère que Boris Johnson qui adore Churchill serait au mieux un Churchill à la petite semaine, mais il réagit un petit peu comme son héros, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on est très pragmatique. Churchill était quelqu'un de très pragmatique, il est passé du parti libéral au parti conservateur avant de retourner au libéral et revenir au conservateur. Donc vous voyez, il ne faut pas voir aussi trop de dogmatisme dans les courants politiques qui animent les premiers ministres. Celle qu'il était vraiment, c'était Margaret Thatcher. Après, on trouve beaucoup, voire Tony Blair, on pourrait en parler, mais qui, pour Boris Johnson, de ce point de vue-là, il me paraît être un conservateur beaucoup plus historique que ses prédécesseurs. Et je pense que le bilan, après, on le verra. Vous savez, Churchill, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, il a été écarté. C'est jamais bon, une crise, hein, pour ceux qui sont au pouvoir, et souvent, on tourne la page d'événements malheureux en écartant l'exécutif qui a permis au pays d'en sortir ou pas, d'ailleurs. Dans les deux cas, c'est une situation très compliquée pour les équipes gouvernementales qui ont eu à gérer ce type de crise. Mais je crois qu'il est vraiment essentiel, j'adhère complètement à ce qu'a dit ma collègue, il faut se rendre compte quand même des énormes difficultés auxquelles font face les Britanniques, et que je suis tout à fait prudent dans la façon qu'on a de les critiquer systématiquement dans une ambiance parfois de British bashing, y compris des plus grands médias nationaux. Je serais curieux de voir comment la France aurait géré de telles difficultés quand on voit que systématiquement le coup en retard, nous sommes quand même aussi un peu devenus des professionnels de ça, après les masques et les tests, maintenant c'est les vaccins, ça en devient quand même effectivement, ça conduit à un peu d'humilité, je pense.
Restez avec nous Aurélie Antoine, Catherine Marchand. Je vous propose qu'on revienne sur un épisode qui a marqué la fin de l'année au Royaume-Uni, la colère des régions du nord de l'Angleterre sur la gestion de l'épidémie.
Il est mal de placer certaines des régions les plus pauvres d'Angleterre dans un confinement punitif sans un soutien adéquat pour les personnes et les entreprises touchées. Le gouvernement ne donne pas aux régions comme la nôtre et celle de Liverpool le soutien financier nécessaire pour des confinements complets de ce genre. C'est la raison pour laquelle nous avons unanimement rejeté le plan du gouvernement. Il est imparfait et injuste. Telle était donc notre conclusion de la réunion de ce matin. Ils sont prêts à sacrifier des emplois et des entreprises ici pour essayer de les sauver ailleurs.
C'était en octobre dernier, Andy Burnham, le maire du Grand Manchester, une agglomération de près de 3 millions d'habitants, accusait le gouvernement britannique de négligence avec les régions du Nord-Ouest. Le gouvernement venait en effet de décréter de nouvelles mesures de confinement pour ces territoires sans le soutien économique nécessaire pour y faire face. La colère des élus avait réactivé le spectre des inégalités entre le nord et le sud du pays et ce sentiment de mépris tenace dont les habitants se sentent victimes. Alors pourquoi une telle fermeté de Londres envers les territoires du nord déjà fragilisé par la désindustrialisation. Une nouvelle invitée nous a rejoint pour en parler. Bonjour Cécile Ducourtieux.
Bonjour.
Vous êtes correspondante au journal Le Monde à Londres. Merci beaucoup d'être avec nous. Cette colère exprimée publiquement et ces attaques aussi directes contre Boris Johnson, c'était inédit.
C'était inédit, en tout cas depuis le début de la pandémie en février-mars au Royaume-Uni, puisque jusqu'à présent, il y avait un consensus politique et les attaques des travaillistes étaient surtout ciblées sur le manque de réactivité de Boris Johnson. Donc cette levée de boucliers du Nord et notamment d'élus du Nord, des gens nouvellement élus du Nord, elle était vraiment totalement inédite, effectivement.
Est-ce que vous pouvez nous situer un peu qui est Andy Burnham, le maire du Grand Manchester, qui est surnommé, je crois, The King of the North, le roi du Nord?
Oui, il est effectivement très, très médiatique, notamment à Manchester, où il a réussi à construire une vraie légitimité. Donc, il a été élu en 2017.
C'est un travailliste.
Premier élu du... Voilà, tout à fait. Un travailliste qui a eu plusieurs portefeuilles ministériels, notamment un ministère de la Santé dans les années 2010 sous Gordon Brown. Il a été notamment face à Jeremy Corbyn, donc il a brigué la tête du Parti travailliste en 2016, de mémoire. Et effectivement, il s'est mis sur les rangs pour être élu premier maire élu directement par la population du Greater Manchester en 2017. À l'époque, on pensait que c'était la carte dorée ou un lot de consolation pour cet homme qui aurait pu effectivement prendre les rênes du Parti travailliste. Et il a réussi à en faire un poste à responsabilité, même si par ailleurs ses prérogatives sont assez limitées. Le maire du Greater Manchester, comme le maire du Greater Liverpool, comme les gens à des pouvoirs équivalents à Newcastle ou à Sheffield, ont surtout des prérogatives en matière de transport et de logement.
Et alors, c'est déjà pas mal, mais enfin... son opposition à Londres, est-ce qu'il faut la lire comme une opposition traditionnelle entre travaillistes et conservateurs, ou bien est-ce qu'elle a quelque chose de plus profond derrière, qui relève d'une opposition entre territoires, donc Londres, la cité riche et cosmopolite, et puis les territoires du Nord, qu'on décrit souvent comme les grands perdants de la mondialisation.
Effectivement, il y a plus que l'opposition entre un travailliste, qui par ailleurs est très médiatique et c'est parfaitement bien parlé aux médias, et puis un premier ministre conservateur qui a assez peu d'intérêt pour le nord de l'Angleterre et par ailleurs les autres nations du Royaume-Uni. Mais il y a effectivement au-delà de ça cette opposition à la fois un peu fantasmée, géographique et aussi parfaitement économique et socio-économique entre le nord de l'Angleterre, qui s'est toujours parmi pour certaines de ces régions de la politique thatchérienne des années 80, de la massive désindustrialisation qui n'a pas été accompagnée d'une aide sociale et de reconversion localement. Et puis, effectivement, ce sentiment que le Nord est toujours délaissé au profit de Londres, qui absorbe, ou qui génère, pardon, encore presque un cinquième du produit intérieur brut, du pays. Donc, Londres reste quand même une capitale ultra dominante d'un point de vue économique.
Dans l'un de vos articles, Cécile Ducourtieux, vous citez un homme qui vous dit « Un tel conflit avec Londres, on n'a pas vu cela depuis Margaret Thatcher ». Comment est-ce que vous interprétez la fermeté de Boris Johnson et cette fin de non-recevoir aux demandes d'aide économique, alors que Boris Johnson avait quand même promis de relever le Nord, de relever, c'était le mot qu'on avait traduit, mais donc de relever ces régions lors de sa campagne électorale en 2019?
J'ai l'impression qu'il y avait surtout, alors il faut remettre encore une fois en contexte, hein. On est en octobre dernier, la seconde vague commence à peine à arriver en Angleterre et en Écosse et dans les autres nations du Royaume-Uni. Tout l'été a été dominé par les efforts du chancelier de l'échiquier, Rishi Sunak, pour essayer de relancer l'économie, qui est redevenue la priorité à la fois du gouvernement et beaucoup de médias anglais. Et là, il se trouve qu'il y a une région dont on parle moins, nord de l'Angleterre, parce que d'un point de vue médiatique, la plupart des journalistes sont quand même centrés à Londres, qui, elle, est pas tout à fait sortie de la première vague, parce que en fait, elle l'a connue avec un petit peu de décalage par rapport à Londres. Les hôpitaux sont pas encore tout à fait désengorgés, et elle subit encore des restrictions avec... il y avait les pubs et les restaurants n'avaient pas la même capacité d'ouverture qu'au sud. Donc, quand Boris Johnson effectivement fait face à cette fronde, je suis pas sûre qu'il la voit venir ou qu'il y a une intention derrière, hein, de laisser le Nord souffrir alors que le Sud, lui, bénéficie d'une relance économique. C'est plus de la du manque d'attention aux problématiques du Nord qu'une vraie volonté de les laisser à l'arrière.
Quoi. Mais cette négligence, précisément, on va revenir avec aussi nos invités en plateau, cette négligence de Boris Johnson pour les territoires et la population du Nord, est-ce qu'il ne risque pas de le payer dans les années à venir, lui et le Parti conservateur Catherine Marshall?
Alors, moi, je suis d'accord avec notre collègue qui vient d'expliquer qu'il faut le remettre vraiment dans le contexte, c'est-à-dire que Andy Burnham, venait tenter de s'imposer. Alors, n'oublions pas quand même que Andy Burnham, travailliste, tente de s'imposer dans le nord de l'Angleterre, dont une grande partie du nord de l'Angleterre, de ses circonscriptions, ont voté en faveur des conservateurs à les élections législatives de décembre 2019. Donc, c'est ce qu'on appelle, l'expression. C'était que Boris Johnson avait fait tomber le mur de briques rouges, c'est-à-dire ces circonscriptions électorales du nord de l'Angleterre qui ont toujours voté travailliste. Et donc, en fait, dans ce contexte, alors on le sait parce qu'il y avait une analyse d'un think tank qui s'appelle Onworld, qui a été publiée au mois de novembre, a montré que les votants de ces circonscriptions du nord avaient voté en faveur des conservateurs en décembre 2019 pour en finir d'une part avec le Brexit, mais aussi pour empêcher Jeremy Corbyn, qui était très à gauche, de devenir Premier ministre. Et donc, en fait, dans ce contexte, Andy Burnham vient porter une voix nouvelle d'un travailliste finalement qui est un petit peu différent, qui s'oppose à ce gouvernement conservateur et qui vient montrer au nord de l'Angleterre que finalement les conservateurs sont des opportunistes, Et que ce mur de briques rouges a eu tort de voter pour un mur de briques bleues. Et donc du coup, c'est dans ce cadre-là qu'il faut voir les choses. Et puis enfin, Andy Burnham cherchait aussi à avoir un dispositif de chômage partiel à la place, sinon si les choses ne pouvaient pas être mises en place. Et il demandait en fait une certaine somme. Et il y a eu un véritable bras de fer. Mais finalement, tout ça a été balayé par le confinement de la deuxième vague. Et puis est balayé par les circonstances actuelles maintenant, puisque la totalité du pays passe dans une zone d'alerte 4. Donc la question qui se pose davantage, il me semble, c'est la question d'un sondage qui vient d'être publié, le sondage Focal Data qui a été mené du 4 au 29 décembre auprès de 22 000 personnes et qui est vraiment très intéressant, mais qui est sorti donc juste avant la nouvelle de l'accord avec l'Union européenne et qui montre qu'un an après les élections législatives de décembre 2019, les conservateurs perdraient précisément les sièges qu'ils avaient gagnés dans ces circonscriptions du Nord. Donc, ils perdraient les 81 sièges. Et dans cette nouvelle configuration, ce qu'on aurait, c'est on aurait des travaillistes qui gagneraient ces sièges. Donc, les grands gagnants seraient les Écossais, mais vous en parlerez sans doute cette semaine. Mais on voit bien que c'est dans ce contexte-là de reprise par les travaillistes de leurs idées dans des circonscriptions du Nord qui sont les leurs, qu'il y a eu cette démarche aussi qui a été faite.
If you're leaving, please still say goodbye. And if you are leaving, can you leave me my silver jubilee, my old flag, my dark woods, my summer.
Merci beaucoup à nos invités. Merci Cécile Ducourtieux, vous interveniez depuis Londres, correspondante du journal Le Monde. On peut lire vos articles et vos portraits, notamment du maire de Manchester, Andy Burnham, sur le site du monde.fr. Merci infiniment à nos deux invités, Aurélien Antoine et Catherine Marchal, de nous avoir accompagnés dans cette émission qui augure donc cette nouvelle semaine sur le Royaume-Uni. Je rappellerai pour vous, Aurélien Antoine, le Brexit, une histoire anglaise, et puis le site de l'Observatoire du Brexit pour suivre la suite de cette saga qui n'est pas terminé. 11h53 presque, tout de suite, c'est l'heure du Tour du Monde des Idées.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Et bonjour Brice, bonne année.
Bonjour Mélanie, à vous aussi bonne année, et aux auditeurs.
Tous les auditeurs qui ont fait un petit peu de sociologie se souviennent des trois facteurs qui peuvent servir de fondement à l'autorité selon Max Weber. Vous nous les rappelez ?
Oui, alors il y a le pouvoir traditionnel, celui du patriarche ou du monarque qui est fondé sur la coutume. Il y a l'autorité qui s'impose en vertu de la légalité, celle du serviteur de l'État moderne qui est fondée à la fois sur la compétence et sur l'élection. Mais il en est une troisième plus étonnante, c'est celle que, selon Max Weber, est fondée sur la grâce personnelle et extraordinaire d'un individu, à savoir le charisme. Un concept que le fameux sociologue allemand avait d'ailleurs emprunté aux épîtres de saint Paul et laïcisé pour en faire un des fondements de l'autorité politique donc. Selon l'historien David Bell, professeur à Princeton, le pouvoir de type césariste coïncide avec les temps modernes. C'est pourquoi il faut distinguer nos Césars modernes des démagogues de l'Antiquité. Cléon, le successeur de Périclès à Athènes, est resté dans l'histoire comme le prototype du démagogue. Aristophane l'attaque dans sa comédie « Les cavaliers ». Le démagogue de l'Antiquité est un beau parleur qui sacrifie les intérêts à long terme de l'État aux caprices du peuple. Et Aristote, qui lui aussi détestait Cléon, met en garde. Les tyrans sont souvent d'anciens démagogues qui ont abusé de leur popularité pour se débarrasser des lois qui entravaient leur appétit de pouvoir. Il écrit « Par ses emportements, il semble avoir corrompu le peuple plus que tout autre. Le premier, il cria à la tribune. Il y employa les injures et parla tout en se débraillant alors que les autres orateurs gardaient une attitude correcte. » Ne croirait-on pas lire ici un portrait d'Adolf Hitler, dirigeant césariste moderne ? Celui-ci, donc le dirigeant césariste moderne, puise sa légitimité dans son charisme personnel. Il est aussi l'héritier du démagogue de l'Antiquité dont je parlais. Il tire son autorité des masses qu'il sait flatter. Mais il n'est pas par hasard le contemporain des journaux imprimés. à une époque où une majorité de la population commençait à savoir lire. Il est étonnant, selon David Bell, que Max Weber, qui fut l'un des principaux responsables de l'écriture de la Constitution de Weimar, ait recommandé l'élection du président du Reich au suffrage universel. Mort de la grippe espagnole en 1920, Weber n'a donc pas eu l'occasion de voir comment le vieux maréchal von Hindenburg, élu au suffrage universel à la présidentielle de 1925, abusa bel et bien du fameux charisme personnel. Mais il pensait, Weber, que les États modernes avaient besoin d'une personnalité incarnant l'unité de la nation pour contrebalancer tout simplement l'effet fâcheux produit sur le peuple par la bureaucratie d'État, impersonnel, peu responsable, mais indispensable.
Et le pouvoir charismatique moderne, lui, naît à l'ère des révolutions, selon David Bell, dont l'essai porte sur la période 1775-1820.
Oui, cet historien étudie la carrière de 5 incarnations du césarisme précoce. Le Corse Pasquale Paoli, George Washington, le fondateur des États-Unis, Napoléon Bonaparte, Toussaint Louverture, le libérateur d'Haïti, et Simon Bolivar, le libérateur du nord de l'Amérique du Sud. Le César moderne brise l'ordre institutionnel ancien parce qu'il aspire au pouvoir personnel, dit David Bell. Il se situe donc au-delà du bien et du mal, du légal et de l'illégal. Le charisme est à la fois révolutionnaire et instable, écrit-il aussi. C'est pourquoi il est rare que le César moderne laisse derrière lui un État doté de lois durables, comme ce fut pourtant le cas de George Washington. Comme quoi, le charisme ne suffit pas. Ce qui a manqué aux 4 autres modernes Césars étudiés ici, c'est la volonté de bâtir un ordre durable qui survive à son fondateur. Comme l'avait remarqué Max Weber, partout, le problème de la succession a été le talon d'Achille des régimes purement césaristes. Et pourtant, sans même évoquer le cas de Napoléon Bonaparte, créateur avec le Code civil de nombreuses institutions qui existent encore dans la France contemporaine, comme les lycées, plusieurs de ces autocrates étaient encensés de leur vivant pour avoir justement posé les fondations de régimes solides et durables. Pasquale Paoli donna une constitution à la Corse et Rousseau, qui proposa lui-même un projet de constitution pour la Corse, écrit dans le Contrat social, je le cite, « Il est encore en Europe un pays capable de législation, c'est l'île de Corse. » La valeur et la constance avec laquelle ce brave peuple a su recouvrer et défendre sa liberté mériterait bien que quelque homme sage lui apprît à la conserver. J'ai quelque pressentiment qu'un jour cette île étonnera l'Europe. À rebours, vous avez un Bolivar qui a dit, je le cite encore, « Je suis convaincu au plus profond de moi que seul un despotisme compétent peut gouverner l'Amérique. » Nous sommes un composé abominable de ces chasseurs de tigres qui vinrent en Amérique verser le sang et croiser le leur avec celui de leurs victimes avant de les sacrifier. Avec de telles mixtures, avec de pareils éléments moraux, comment pourrions-nous placer les lois au-dessus des héros et les principes au-dessus des hommes ? Dans un article du New York Times, du New York Review of Books, rendant compte de ce livre, Ferdinand Mount oppose ses exemples à ceux de Gandhi et de Mandela. Eux virent dès le départ que conquérir le pouvoir ne suffisait pas et qu'ils devaient poser les fondations d'un régime qui leur survivrait, qui survivrait à leur propre génération. C'était pourtant bien sur leur charisme personnel que reposait leur immense autorité.
Eh bien, merci beaucoup, Brice Couturier. Votre chronique à retrouver, à réécouter, comme d'habitude, sur franceculture.fr. Demain, suite de notre série sur la Grande-Bretagne, nous demanderons ce qui fait encore tenir ensemble les Britanniques. Et c'est Florian Delorme que vous retrouverez à ce micro.